Avec vous, Catherine Potet, autour des hebdomadaires et des journaux du dimanche. À la une, le Premier ministre François Bayrou face à une échéance cruciale.
François Bayrou, au pied du mur de l'affaire Betarame, titre le Parisien dimanche. Le Premier ministre a préparé en cercle restreint un rendez-vous crucial, son audition mercredi par la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. L'enjeu est considérable, remarque le journal. Betarame, c'est cette école privée catholique qui fait face à de nombreuses plaintes et accusations pour violences et agressions sexuelles à partir des années 80 et 90. Le Parisien dimanche rappelle le contexte. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 97 et parent d'élèves scolarisés dans cet établissement où son épouse enseignait le catéchisme. Il aura d'autant moins le droit à l'erreur qu'il s'exprimera sous serment. Le Nouvel Obs, qui consacre sa une à l'affaire Betarame et au Premier ministre, dit la même chose mais plus crûment. Ce sera pour François Bayrou l'occasion de livrer ses vérités. Espérons qu'il ait la décence de la saisir alors qu'il s'est jusqu'ici enferré dans le déni et le mensonge. Le 11 février à l'Assemblée nationale, rappelle le Parisien dimanche, François Bayrou a d'abord nié en bloc, assurant n'être au courant de rien avant de changer de version par la suite.
Le Nouvel Obs, de son côté, a décidé d'élargir le sujet.
Pour l'hebdomadaire, l'affaire Betarame est une bombe à fragmentation. Elle nous oblige, nous dit-on, à regarder en face le caractère endémique des violences faites aux enfants dans les familles, mais pas seulement, car l'école n'est pas toujours un sanctuaire pour nos enfants. Et le Nouvel Obs dresse ce constat. L'enseignement catholique est au cœur des dernières révélations. Pratique déviante, faiblesse des contrôles de l'État, voire protection de l'institution par des élites qui en sont souvent issues. L'hebdomadaire parle donc de bombe à fragmentation et précise encore que depuis février, de nouveaux cas d'établissements déviants apparaissent chaque semaine, des plaintes s'accumulent, pas moins de 200 pour Betarame, et des affaires tues pendant des décennies font la une des journaux.
De son côté, la Tribune dimanche a rencontré l'une des victimes de Betarame, leur porte-parole, Alain Esquer.
Il est l'auteur du livre Le silence de Betarame, et il est, nous dit le journal, le visage de tous ceux qui ont souffert dans ce qui s'apparente aujourd'hui à l'un des plus grands scandales de pédophilie de l'histoire de l'éducation française. C'est lui qui a recueilli sur un groupe Facebook des dizaines de témoignages. Aux appels d'anciens élèves, raconte la Tribune dimanche, succèdent ceux de la presse régionale qui commencent à relater le scandale. Dans les familles, chacun découvre ce que son père, frère, mari a vécu dans son enfance sans avoir jamais osé le raconter. Malgré ces témoignages, aucun responsable politique local, tous bords confondus, ne décroche son téléphone. On est seul, tout le monde s'en fout, constate Alain Esquer. Jusqu'à ce que le Premier ministre lui-même décroche son téléphone. Je le sens dépassé, dit-il. Il est sincère, mais il est le reflet d'une époque qui ne comprend pas. Pour lui, c'est une histoire de gifles et de punitions qui ne font pas de mal aux enfants.
Dans la presse hebdo également, cette semaine, Catherine, un long reportage du Point sur la République démocratique du Congo.
Et plus précisément dans le Nord Kivu, les envoyés spéciaux du magazine, Guillaume Perrier et Vivien Latour, ont rencontré des creuseurs des mines de Roubaïa, sommairement équipés, nous dit-on. Ils descendent en escalier armés de pioches. Ils font ensuite remonter le sable et le minerai en se passant des sacs de main en main. Les visages sont juvéniles, les éboulements sont leur hantise. Un travail harassant payé 5 dollars par jour. La région est riche en minerais et notamment en coltan, et elle est depuis longtemps la cible de nombreuses convoitises qui se concrétisent par des affrontements armés. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, rappelle le Point, accuse le M23 de chercher à s'approprier les ressources du Kivu. 150 tonnes de coltan seraient selon lui détournées vers le Rwanda chaque mois. Kigali dément.
Et à Goma, le Point a rencontré Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance Fleuve Congo, coalition formée autour du M23.
Il incarne le nouveau pouvoir, explique le magazine, et lui aussi accuse. Il avait acquis des titres miniers sur le gisement d'or de Zanikodo en Ituri. Des proches du président Tshisekedi l'en auraient spolié après 2021, explique le Point, qui décrit ainsi la situation depuis la fin des combats. Goma reprend vie, le port sur le lac Kivu retrouve son agitation vespérale. Mais les combats de la fin janvier ont laissé des traces. Les violences ont fait entre 3000 et 8000 morts, selon les estimations. La sérénité n'est pas vraiment revenue à l'ordre du jour. Certains habitants se plaignent d'être raquettés par des membres de l'armée gouvernementale en civil. La guerre n'est pas terminée, regrette l'un de ses habitants.
Merci Catherine Potet, bonne journée.